Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. C'est par ces paroles, c'est par les paroles que David invite à chacun et à chacun à célébrer Dieu. Que vous soyez présents ici physiquement ou que vous nous regardez à travers une caméra, que vous soyez accueillis par Jésus à sa table. J'aimerais juste poursuivre par quelques annonces. Nous rappelons que mardi soir à 20h, il y a un atelier biblique animé par Philippe Anchaud, notre pasteur, qui a pour thème Jésus et ses disciples, quand les disciples ne comprennent pas grand-chose, ou quelque chose de ce type. Vendredi 5 décembre à 19h30, nous avons un colloque ici et nous aborderons les différentes choses de la vie de l'Église. Nous célébrerons Noël par un goûter le 14 décembre à 15h. Et vous êtes bienvenus d'inviter vos amis et connaissances. Nous avons juste besoin encore de quelques plats salés et sucrés, c'est juste. Et il y a aussi un besoin d'étoffer l'équipe pour les rangements. Donc vous pouvez aller voir Annick ou Xavier pour ça. J'aimerais juste inviter Roger Aniguer qui a une petite annonce.
Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un petit ouvrage qui vient de sortir. C'est Des ailes pour servir, il est gratuit, vous pouvez en prendre, j'en ai quelques-uns à la sortie. C'est des histoires de 9 pilotes missionnaires suisses dont je fais partie. On a écrit quelques petites histoires des événements qui nous ont marqués, qui sont poignants, touchants, assez spéciaux des fois, c'est pas du tout technique, et ce livre a pour but de vous susciter l'intérêt pour la mission et l'aide humanitaire, vous découvrir plein de choses. Ça se passe entre les années 80 et 2000, donc c'est un petit peu vieux, mais voilà, j'en ai et ils sont à disposition à la sortie. Merci.
Une dernière annonce qui est, comment Sylvie Carrel, la femme de Serge Carrel, qui est lui pasteur à la Pélisserie et aussi formateur au sein de la FRE, a perdu sa femme, Sylvie. Donc voilà, la cérémonie se passera à Yverdon le mardi prochain. Donc, je veux juste prier pour lui et nous continuerons à lire le psaume 34. Seigneur, tu connais toutes choses de nos vies. Tu connais nos hauts et nos bas. Et je te prie spécialement pour Serge et sa famille, que tu sois le Dieu de consolation pour lui, Seigneur, et pour ses enfants, pour tous ceux qui entourent Serge en ce moment. Nous te disons que tu lui donnes, dans cette période, un contact privilégié avec toi, Seigneur. Amen. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a pas à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve un refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Le psaume 34 est un poème alphabétique. Chacun des versets commence par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébreu. J'avais lu, il y a quelque temps déjà, un commentateur qui disait que les textes construits de cette façon, qui ressortent surtout les Lamentations de Jérémie, employaient cette forme poétique pour dire au lecteur qu'il y a une dimension de complétude dans ces textes. 9 psaumes ont ce procédé littéraire. Que ce psaume et surtout Dieu nous rejoignent l'un et les autres d'entre nous dans un de ces facettes de nos vies qui viennent d'être proclamées. Que puisse vraiment louer le Seigneur et lui rendre hommage. Amen.
Reprenons le début de ce psaume qui dit « Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. » Alors, notre premier chant va rappeler bien des sujets pour lesquels nous pouvons louer le Seigneur. Quel ami fidèle est-on. Thank you. Le Seigneur est ma fierté, vous les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. Alors, quelle raison pour l'auteur du psaume a invité les malheureux à se joindre à sa louange? Eh bien, il le dit au verset 5, « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. » Alors aimons ce Seigneur qui vient au secours des pauvres que nous sommes en s'incarnant et en venant mourir à la croix pour nous.
Tu règnes souverain, un simple mortel, L'éternel des hommes, à nouveau, mon cœur se donne à ton amour.
À nouveau.
À nouveau, mon cœur se donne à ton amour.
À nouveau.
À nouveau, mon cœur se donne à ton amour.
Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Alors, bien avant la venue de Jésus-Christ, l'auteur avait perçu la réalité que Paul nous rappelle en Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Nous pouvons attendre et demander sereinement au Père la venue pleine et entière du royaume sur la terre comme au ciel.
Aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
temps pour les enfants de rejoindre leur groupe, les potes. Donc, je priais pour eux et j'avais cette parole pour vous, les enfants. Jésus, il a dit, approchez, venez à moi. Et si vous avez des difficultés dans votre vie, vous pouvez venir à lui en toutes circonstances. S'il y a des camarades qui vous embêtent ou des choses qui sont dures à porter, vous pouvez demander à Jésus de venir, de le prier. Donc prions-le. Merci Père pour chacun des enfants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, que tu prennes soin d'eux, Seigneur, et que tu sois aussi avec les moniteurs et les monitrices, que tu puisses vraiment leur donner les paroles qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Amen. Soyez bénis.
Bonjour à toutes et tous. Je vais vous la faire en thaïlandais pour les quelques mots que j'ai appris. Sawadikap. Et si vous êtes une femme, vous dites Sawadikap. Sawadikap. Bonjour à toutes et tous. Je suis rentré vendredi matin d'un séjour de 12-13 jours en Thaïlande. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, que je collabore depuis une douzaine d'années maintenant avec une ONG chrétienne qui travaille à la libération des personnes prises dans les réseaux de traite d'êtres humains. Non seulement à leur libération, mais également à leur restauration et à leur réhabilitation, avec des soins de santé, avec des soins d'éducation, avec du microcrédit, avec un accompagnement sur le long terme. Et c'était un immense privilège de vivre une fois encore ces quelques jours avec cette ONG. J'aimerais remercier le conseil, par là même l'Église, de la confiance qui m'est accordée, de la liberté qui m'est donnée de prendre ces quelques jours précieux d'engagement à leur côté. Ce matin, nous allons commencer assez rapidement, en fait, par la lecture d'un passage biblique. Une lecture un peu longue, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis tout à l'heure, à la fin de la prédication, nous aurons un temps avec Slido. Donc Slido, c'est cette appli que vous n'avez pas besoin de télécharger, que vous trouvez en ligne, et qui vous permet de poser des questions ou de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Ce matin, le numéro à renseigner sur l'appli est donc le 820-51-72. Puis tout à l'heure, nous prendrons un petit moment pour répondre à vos questions, s'il y en a. Nous allons lire dans quelques instants le chapitre 12, donc, du livre des Actes. Nous sommes encore, en fait, dans les tout débuts de l'Église. L'Église se développe à Jérusalem, où elle est née, et puis d'autres églises commencent à naître en Judée, en Samarie, en Syrie et au-delà. Mais ce n'est pas encore la période où l'apôtre Paul portera le message jusqu'à Rome. Rome où il laissera sa vie en martyr. Mais nous ne sommes pas encore là. Au cours de la lecture que Boris et Michel vont nous faire, je vous invite à essayer de repérer ce qui est induit par trois mots-clés. Trois mots-clés. La persécution, la prière et les progrès. Essayez de repérer ça. persécution, prière, progrès. Et nous y reviendrons ensuite pendant la prédication sur ces trois mots-clés. Persécution, prière, progrès. Et je me permettrai de glisser ici ou là quelques échos de mon voyage en Thaïlande avec cette phrase qui m'a tourné dans la tête ces quelques jours, une phrase de Gustave Flaubert, « Cela rend modeste de voyager. On voit quelle petite place on occupe dans le monde. » Je vous invite à écouter la lecture qui va nous être faite maintenant d'Acte 12.
À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. Hérode le fit saisir et le jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur.
Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur porte, devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit
« Lève-toi vite !»
Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit
« Mets ta ceinture et attache tes sandales. »
Pierre lui obéit et l'ange ajouta
« Mets ton manteau et suis-moi. »
Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne savait pas si ce qui arrivait était l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte que ce qui était arrivé, et il se dit,
« Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout mal que le peuple juif me souhaitait. »
Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent
« Tu es folle !»
Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors
« C'est son ange sûrement. »
Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Et il leur raconte comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il ajouta
« Annoncez-le à Jacques et aux autres frères et sœurs. »
Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps.
Je reprends la lecture. Hérode était très irrité contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui.
Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Il demanda à Hérode de faire la paix, car leur pays s'approvisionnait dans celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son habit royal et s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria :
C'est un dieu qui parle, et non pas un être humain.
Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode, parce qu'il s'était réservé l'honneur qui est à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Barnabas et Saul, après avoir achevé leur mission à Jérusalem, s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui.
Un long chapitre, hein ? C'est quand même bien le dimanche matin. On a un peu de temps. On peut lire la Bible ensemble, se poser, l'écouter, la laisser mûrir. Un long chapitre. Pourquoi est-ce que Luc prend le soin, le temps de nous raconter ces choses ? Je pense qu'il y a au moins trois raisons. D'abord, il aimerait nous montrer que l'évangile progresse. Malgré l'opposition cruelle des autorités, malgré la persécution, l'évangile progresse. Et ça va traverser l'histoire. Mais il veut aussi nous montrer que les autorités humaines devront rendre compte à Dieu. Les autorités devront rendre compte à Dieu. Et je pense qu'il nous raconte ça aussi pour nous montrer que les progrès de l'Évangile s'accompagnent d'actes miraculeux de la part de Dieu. Et en filigrane, il y a un certain regard sur la prière. Et cela devrait, pour le moins, nous intéresser, nous interpeller et nous encourager. Parce que, reconnaissons-le, la prière, ce n'est pas notre fort. Reconnaissons-le. Je culpabilise personne. Je le sais dans ma propre vie. Mais la prière, et la prière communautaire en particulier, honnêtement, on n'est pas au niveau. Honnêtement. Jacques, le frère de Jean, est exécuté par l'épée. Ce n'est pas le premier à être ciblé par les autorités et à mourir pour sa foi. Ce n'est pas le premier, déjà rien que dans le livre des Actes. Qui l'a précédé ? Étienne. Premier martyr. Et puis il y en a certainement eu d'autres encore. Vous savez, ces chrétiens anonymes, harcelés, emprisonnés, voire exécutés, à cause de la campagne menée contre eux par un certain Saul de Tarse, qui, suite à une rencontre avec le Seigneur lui-même, va devenir l'apôtre Paul. Les disciples savent qu'ils ne sont pas plus grands que leur maître. Et que si leur maître lui-même a été rejeté, maltraité, eux, les disciples, ne doivent pas imaginer une seconde qu'ils pourront y échapper. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus le leur avait dit très clairement dans les évangiles. Et Jacques, le frère de Jean, l'un des 12 apôtres, le savait encore mieux que les autres. Parce qu'un jour, Jésus prend Jacques et Jean à part, Matthieu 20, versets 20 à 28, et il leur dit à ces deux-là qu'ils boiraient comme lui une coupe amère. Alors on ne sait pas trop dans quelle prison sordide Jacques a attendu son sort. Mais il est probablement seul devant la haine et la violence. Personne n'est là pour lui tenir la main. Personne ne lance une pétition pour sa libération. Personne ne crie à travers les barreaux pour l'encourager dans ses derniers instants. Sa seule consolation dans l'histoire, c'est de ne pas être crucifié. Sa souffrance n'a pas duré, il est passé au fil de l'épée. Et de suite après, nous lisons dans le texte que c'est le tour de Pierre. Pierre est à son tour arrêté, emprisonné. Il va être jugé en public sans aucun espoir de procès équitable. Ce sera un spectacle, une opération de communication avant sa mise à mort. Pensez donc, on le considère, Pierre, comme le chef de la secte des Nazaréens. Et on veut décapiter tout le mouvement, décourager le menu fretin, avertir toute la population de ne pas verser dans l'hérésie, de ne pas commencer à suivre Jésus. Hérode Agrippa Ier n'a sans doute pas tellement de convictions religieuses réelles. Mais il tient à respecter scrupuleusement les rites juifs. Il veut garder les responsables juifs de son côté. Il veut avoir la paix à Jérusalem. Et il tient à protéger son image. Ce n'est pas un fanatique, Hérode Agrippa Ier. Mais c'est un homme de pouvoir. C'est un calculateur. Il n'a que faire des personnes. Le pouvoir avant tout. Ça nous choque que des soldats payent de leur vie la libération miraculeuse de Pierre, verset 19. 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, 16. 16 soldats payent de leur vie la libération miraculeuse de Pierre. Ben ouais, c'était la loi. Si tu gardes un prisonnier, ta vie répond à la sienne. Pour Hérode, quelques soldats de plus ou de moins, ce n'est pas tellement une affaire. Au contraire, les autres feront plus attention après. Et c'est donc dans ce climat violent que l'Église de Jérusalem se réunit. C'est dans ce climat violent que l'Évangile est annoncé. C'est dans ce climat violent que la parole de Dieu se répand de plus en plus. Alors on ne peut pas dire que c'est toujours le cas. Louis XIV a massacré nos ancêtres dans la foi et il en a poussé un très grand nombre à l'exil jusqu'en Suisse, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis. Aujourd'hui, ce matin, pendant que nous sommes assis ici en sécurité, les chrétiens et les chrétiennes du Soudan sont massacrés. Des chrétiens et des chrétiennes en Syrie sont massacrés. La situation est tellement compliquée au Nigeria et en Thaïlande. L'opposition existe Elle est sournoise. Elle est faite de multiples humiliations. Il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec les limites. On appelle ce pays le pays du sourire. Et le sourire y est omniprésent. Mais les chrétiens ont de la peine à exercer sereinement leur foi. Nous étions 350 réunis pour la conférence. Beaucoup de Thaïs, mais aussi quelques Occidentaux et un Suisse. Et on m'avait dit avant, n'oublie pas de prendre pièce d'identité, ton passeport avec toi partout où tu vas. J'en avais fait une photocopie. Et au deuxième jour de la conférence, il y a eu un contrôle de police, en pleine séance, comme ce matin. C'était courtois, mais je n'avais pas mon passeport. J'avais la journée pour aller le présenter, payer une amende considérable. Ça ne m'était jamais arrivé d'aller dans un commissariat où tu comprends rien de la langue, rien de la culture, et où les choses sont faites sévèrement. Et au bout du compte, j'étais bien accompagné, heureusement, par un frère Thaï. Mais au bout du compte, voilà, on rend mon passeport, puis on tend le passeport, puis on le reprend comme ça. Et puis on me dit, vous avez rempli la TDAC, c'est une déclaration en ligne que tu dois faire avant d'arriver en Thaïlande. Et les responsables de la conférence m'avaient dit, sur la TDAC, tu ne peux pas noter que tu es pasteur parce que tu ne pourras pas rentrer. Donc tu notes quelque chose d'approchant. Je n'étais pas très à l'aise avec ça, mais enfin, voilà. Teacher, enseignant. Et l'officier que j'avais en face de moi, qui me tend le passeport, puis qui le reprend comme ça, il me dit, next time, you don't lie. You're not a teacher, isn't it? N'êtes pas un enseignant, n'est-ce pas? Next time, you don't lie. Et tu sens qu'à ce geste, une vie peut basculer, pas la mienne, mais celle d'un frère ou d'une sœur Thaï. La persécution est une réalité dans ce monde. En Iran, qui ne connaît rien aux droits de l'homme, l'Église est pourtant de plus en plus nombreuse. Malgré les arrestations, malgré les exécutions, l'Église grandit. On peut en dire autant de la Chine, et c'est un miracle. À la fin du IIe siècle, Tertullien a écrit « Le sang des martyrs est semence de chrétiens. » La persécution, elle prouve l'impuissance et la bêtise des persécuteurs devant la vérité. Voilà donc le contexte de notre chapitre. La persécution, l'opposition féroce qui traverse nombre de sociétés aujourd'hui, en Occident, en Afrique, en Asie. Une opposition toujours d'actualité dans tellement d'endroits du monde. Nous jouissons ici de privilèges rares dans l'histoire du monde et dans la géopolitique actuelle. Qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Qu'est-ce que nous en faisons? Nous qui pouvons dire l'Évangile, nous qui pouvons l'incarner sans aucune limite, protégé par nos autorités, valorisé par une culture judéo-chrétienne, qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est une vraie question pour moi. Comment j'use de ma liberté pour incarner l'Évangile dans ce monde. En toile de fond de toute cette opposition, il y a une église qui prie. Regardez au verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Ardemment. Ce n'était pas une petite prière vite expédiée. Ce n'était pas une petite prière sans conséquence, mais les gens, les chrétiens, l'Église, l'Assemblée y mettaient du cœur, du temps, de la constance. Au verset 12, c'est de nombreuses personnes qui se réunissent chez Marie pour prier. Ce n'était donc pas le fait de quelques bonnes âmes pieuses qui n'avaient aucune autre obligation dans leur vie. Il y avait une mobilisation générale. Une mobilisation générale. Bien sûr, ils auraient pu prier tranquillement, chacun chez soi. Mais est-ce qu'ils auraient prié alors? Est-ce qu'ils auraient prié aussi ardemment? Ils avaient besoin les uns des autres pour s'encourager dans la prière, pour se fortifier mutuellement, pour former un bloc. Une église qui prie et qui s'engage. Et permettez-moi de vous dire le fond de ma réflexion ici. On peut avoir des projets multiples, et nous en avons. Je peux vous dire avec le conseil, il y a tellement de choses que nous avons à cœur et que nous avons envie de développer. Mais si nous n'arrosons pas ça de nos prières, ça n'aboutira pas, sauf la grâce de Dieu. Une église qui prie. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager, à nous retrouver pour la prière. On essaie de discerner, d'où le sondage que vous avez reçu, on essaie de discerner ce qui aujourd'hui pourrait nous encourager à plus prier ensemble. Mais je nous encourage à le faire, le dimanche matin, en semaine, lors d'une séance, d'un groupe de travail, prier ensemble. En Thaïlande, face à des défis considérables, j'ai vu une église se mobiliser pour la prière. Très tôt le matin, très tard le soir, pendant les pauses. Tellement de choses à remettre entre les mains de Dieu. Et j'ai noté cette phrase d'une jeune sœur en Christ, une des toutes premières qui a été délivrée, c'était en 2014, d'un réseau de traite d'êtres humains. Elle m'a dit ceci: devant tout ce qui nous dépasse et pourrait nous submerger, la prière est à la fois souvent la seule chose que nous pouvons faire, mais aussi la plus efficace. Parce que Dieu répond avec toutes les ressources qui le caractérisent. Dans l'enseignement de Jésus, la prière personnelle, en privé, on sait que ça a son importance. Mais aussi la prière en église. D'ailleurs, le Notre Père que nous avons chanté souligne l'aspect collectif. Il est au pluriel. Notre Père, délivre-nous, pardonne-nous. En fait, l'église là, elle n'a pas entendu cette crise pour prier. Les chrétiens prient ensemble avant la Pentecôte, après la Pentecôte. Ils prient en petit groupe, ils prient en grand groupe, de façon informelle, dans les maisons, de manière plus liturgique, quand ils vont au temple, mais ils prient. Ils persévèrent dans la prière, dit Acte 2, 42. En un sens, la prière, c'est une habitude à prendre, puis à entretenir. Quand Jacques, le frère de Jean, s'est fait arrêter, je ne peux pas imaginer un instant que les chrétiens n'ont pas prié pour lui. Alors Acte 12 ne le dit pas explicitement, mais de nombreux passages dans les Actes montrent que la prière faisait partie intégrante de la vie des chrétiens. Ses amis, son frère, les autres apôtres, sa femme, ses enfants, s'il en a. Les gens prient. Mais leurs prières, elles n'ont pas été exaucées. Est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas prié avec foi? Sûrement pas. Est-ce qu'on va dire que Jacques avait commis je ne sais quel grave péché et que Dieu l'a puni? Sûrement pas. On va plutôt dire ceci: les chrétiens avaient raison de prier pour sa libération. Mais ils étaient comme nous. Nous ne savons pas toujours prier comme il faut. Nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit prend, accompagne et interprète nos prières parce que lui au moins sait prier selon la volonté de Dieu. Romains 8, 26 à 27. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faible. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans nos cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Avec les prières, Jacques, il a pu tenir bon jusqu'au bout. Leurs prières n'étaient pas vaines, même si l'histoire de Jacques se finit dans le sang. Maintenant, est-ce que ça va être pareil pour Pierre ? Non, mais vous imaginez un peu l'ambiance dans cette réunion de prière chez Marie. On prie, on lit peut-être des psaumes, comme on l'a fait tout à l'heure. On demande à Dieu de sauver Pierre, alors qu'à vue humaine, il n'a pas sauvé Jacques. Il y en a plus d'un qui doit avoir des doutes. Surtout les amis de Jacques, son frère Jean, les autres apôtres, sa femme, ses enfants, s'il en a. Moi, j'espère que la réunion n'a pas été perturbée par des chrétiens exaltés qui disent des âneries. J'espère qu'ils ont pu prier sereinement, mais avec foi. Non pas dans la certitude de ce que va être l'issue de la crise, mais dans la certitude que Dieu est souverain, qu'il veillera sur Pierre, que les portes de l'enfer ne résisteront pas à l'Église. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, Dieu sera glorifié, comme le dira Paul un peu plus tard, Philippiens 1:20. Cette fois-ci, c'est par un miracle que Dieu manifeste sa souveraineté. C'est par un miracle que Dieu est glorifié. Personne ne pensait à ça, personne ne l'imaginait, personne ne le croyait au début. Même pas Pierre, qui pensait qu'il rêve, verset 9. Rhodes n'ouvre pas la porte et les autres la traitent de folle. Ça me rassure un peu. Ces chrétiens des premiers temps, ils étaient un peu comme nous quand ils priaient. Et Dieu les a surpris, comme il est prêt à nous surprendre, si on le prie. Pierre, il part se mettre à l'abri, verset 17. Il n'est pas présomptueux, Pierre, comme si Dieu allait toujours mobiliser des anges pour lui, quoi qu'il fasse. Le miracle, c'est l'exception, pas la règle. La plupart du temps, l'intervention de Dieu est plus discrète qu'un miracle, la plupart du temps. Et pourtant, je peux vous dire qu'en Thaïlande, des miracles, j'en ai vu. Cette année comme les précédentes. Et ça me cueille à chaque fois, tant vous savez aussi que je suis plutôt prudent en la matière. Mais là, j'ai vu des miracles. Indiscutables. Massifs. Des femmes guéries de blessures indicibles. Des cicatrices qui se sont transformées en parures de la grâce de Dieu. Des situations complexes qui se sont dénouées parfois en un instant. Des délivrances miraculeuses. Parce que Dieu s'authentifie dans un contexte où si peu le connaissent, où si peu ont même accès à sa parole. Là-bas, en tout cas, j'apprends à ne jamais rapetisser l'extraordinaire puissance de Dieu. 3 ans après avoir accédé au pouvoir en Judée, en avril de l'an 44, le roi Hérode meurt d'une manière étrange et soudaine dans notre texte. Il se prend pour le Messie, selon certains. Il se prend pour un dieu, dit notre texte. Il arrive sur une estrade tout habillé d'argent. Le soleil levant le fait briller. Les gens sont éblouis, impressionnés. Et Hérode s'écroule sur l'estrade et meurt après 5 jours d'agonie. Luc en parle ici. L'historien juif Joseph raconte la scène. Pourquoi il est mort ? Il y a des causes médicales, sans doute. On dit qu'il y a des vers qui sont de la partie. Empoisonnement ? C'est ce que pense Wikipédia. Mais Hérode Agrippa Ier, il meurt surtout parce que pour Dieu, il est allé trop loin. Et qu'il était temps qu'il rende compte à son Créateur. J'aimerais mieux rencontrer l'ange de Pierre que celui d'Hérode. Pourquoi est-ce que Pierre est libéré et Jacques pas ? Pourquoi est-ce qu'Hérode est frappé et que d'autres tyrans aujourd'hui ne sont pas frappés ? Ben on ne sait pas. Et moi j'apprends à composer dans ma vie avec la souveraineté de Dieu. Et c'est aussi un élément que j'essaie d'intégrer dans ce que j'ai découvert depuis 12 ans en Thaïlande. La souveraineté de Dieu. Dans un pays où on ne plaisante pas avec la royauté. Mais le vrai roi pour nos frères et sœurs dans ce pays, c'est le Seigneur. Et c'est aussi le nôtre ici, pas moins puissant, pas moins agissant, pas moins digne d'être révéré par tous et par toutes. À l'arrivée, on ne se moque pas de Dieu. Notre chapitre se termine, comme tant d'autres, sur cette note de progrès. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ça, c'est un des leitmotivs du livre des Actes. C'est l'un des leitmotivs de l'action de Dieu dans ce monde. Sa parole se répand de plus en plus. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ceux qui répandent la parole, l'Église. Je suis toujours frappé et encouragé par ce que je vis en Thaïlande. Cette Église incroyablement audacieuse, courageuse, qui incarne l'évangile de la bonne nouvelle auprès de personnes qui sont fracassées par la méchanceté des hommes, qui ont tellement besoin de la bonne nouvelle, qui sont restaurées et que l'on voit ensuite s'engager à leur tour. Je suis encouragé quand je vais en Thaïlande, mais je suis encouragé ici aussi parce qu'on s'inscrit dans cette ligne-là. On le fait autrement, ce n'est pas le même pays, on n'a pas la même culture, mais ce n'est pas grave. On aime la parole, on a envie que la grâce de Dieu se répande, que nos voisins, nos entourages, les hommes et les femmes qui sont fracassés par la vie puissent être restaurés par la grâce de Dieu. Après chaque crise, en interne, ou ces crises qui surviennent depuis l'extérieur, Luc nous dit donc que l'Évangile progresse. Ni les incohérences des chrétiens, ni la persécution des autorités ne peuvent bloquer durablement la marche en avant du peuple de Dieu. Ce peuple prie. Dieu le surprend parfois par ses exaucements. Et par la grâce de Dieu, l'Évangile progresse. Et jusqu'à la fin du chapitre, Luc ouvre la perspective de nouveaux progrès encore. Paul et Barnabas vont remonter à Antioche, d'où ils partiront bientôt en mission. Jean-Marc, qui sera l'auteur de l'évangile de Marc, remonte avec eux pour être formé à leur contact. C'est quand même épatant, mes amis, comment les choses s'alignent. Jésus a bien dit, et je finis avec ça. Je bâtirai mon église, la mort elle-même, pour un rien contre elle. La persécution, elle est un fait incontournable. Nous n'aurons peut-être pas toujours les libertés que nous avons aujourd'hui. Ne les méprisons pas, ces libertés, ne les gâchons pas. La prière, elle est importante. Même si on ne comprend pas tout, on se mobilise, on se réfugie entre les mains d'un Dieu qui n'est pas avare de ressources et d'interventions. Le progrès, c'est dans cette perspective que nous nous inscrivons. On n'est pas arrivé. C'est dans cette perspective de progrès que nous nous engageons. Enfin, j'espère. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons des envies, des perspectives. Mettons-y du cœur, de la créativité. Engageons-nous ensemble pour l'Évangile. et nous arrosons le tout de nos prières. Encore et encore. Amen. À vos Slido. Vous êtes fort. Je vais prendre quelques-unes des questions. Et si on déterminait lors d'un repas ensemble dans l'église des domaines pour lesquels prier, et les uns et les autres s'engagent à prier pour ce qui les touche. Amen. Toutes les idées pour la prière sont bonnes à prendre. Toutes. N'attendez pas que le pasteur seul les mette en œuvre. Allez-y. Vous avez des idées, vous avez des envies, allez-y. Touchez-en deux mots à l'équipe pastorale, au conseil, à nos amis du Bost qui vont gérer la question des repas communautaires. Mais toutes les idées sont bonnes pour la prière. Pour quel domaine peut-on prier tous ensemble pour notre Église ? Merci pour cette question. Pour l'unité, ça va bien, hein, jusqu'ici, grâce à Dieu. Parce que chacun y met du sien. Ça va bien. Mais rien de plus fragile que ça. L'unité. Une église divisée, c'est fini. Son témoignage, il est caviardé, cassé. L'unité. Une église unie. Vous voulez prier ? Priez pour une église unie. Priez, prions pour une église qui s'engage, qui est créative, qui a des idées. Comme je vous ai dit, hein, plusieurs nous traversent la tête avec le conseil au point qu'on s'est bloqué une matinée spéciale pour en parler bientôt. Priez pour que l'Église s'engage. On peut faire plus et mieux. On a beaucoup pris soin de nous à l'intérieur ces 2-3 dernières années. Et il fallait le faire, c'était bien. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour de son nombril. Il y a des gens qui meurent autour de nous, sans aucune espérance. Priez pour une église qui s'engage. Priez pour une église qui cherche la communion avec ses frères et sœurs d'autres dénominations. Priez pour une église qui se renouvelle. Priez pour le travail qui se fait auprès des enfants, les potes. Rebecca, elle fourmille d'idées remarquables. Elle manque de quelques ressources pour les mener à bien. Priez pour des gens qui se lèvent. On en a besoin. On en a besoin dans tous les domaines. Mais priez pour ces sujets. Comment ça se passe, une rencontre de prière ? Quand est la prochaine ? La prochaine, dernière de la formule actuelle, elle est le 3 décembre. On va réfléchir pour la suite. mercredi 3 décembre, 17h, 18h30. Si on pouvait être un petit peu plus que 6 ou 7, ce serait formidable. Et puis après, on aura une nouvelle formule. Comment ça se passe? Ben, on se retrouve en Mathieu. Comment ça se passe? Allez, viens, Mathieu. Comment ça se passe, Mathieu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça se passe comment?
Culte et pas...
c'est ça, ça l'effet waouh.
On se retrouve, on discute, on prie généralement pour trois domaines, du plus grand au plus petit, donc pour... ou du plus petit au plus grand. Donc de...
Des fois, on part
de
loin.
C'est pour ça qu'on prépare.
C'est ça.
Donc de ce qui se passe dans le monde, généralement, enfin, l'actualité internationale. Ouais. Ensuite, de ce qui se passe à l'échelle du pays. Et à la fin, des défis internes à notre église. Et voilà, c'est souvent moins long que ce que ça a l'air. On se dit souvent, voilà, 17h, 18h30 à prier. Moi, je me sens concerné parce que tu as dit au début, on n'est pas très bon pour prier. Et j'ai été agréablement surpris de voir la richesse de cet échange et de ce qu'on peut vivre dans ces réunions de prière. Donc voilà, je vous encourage à venir et voilà, je te rends le micro, merci.
Merci Mathieu, merci d'avoir joué le jeu, hein, désolé. Je t'ai réveillé là, ça va. Bon. C'est tout simple, une réunion de prière. On se retrouve dans une salle en bas, on lit un texte biblique, on partage quelques sujets, et puis on prie, puis on parle un peu, puis c'est pas très long, c'est 1h20, 1h30, mais on peut imaginer 12, 20, 50 autres formules. N'hésitez pas à les proposer. Et je m'arrête là pour ce matin, pour le Slido. Merci pour votre attention. Boris. Ou l'équipe musicale. Je crois que nous chantons maintenant « Rédempteur du monde ».
Merci notre Père.
une des questions du Slido, c'était de prier pendant un repas. Et je pense que ce temps de commémoration du repas du Seigneur, c'est un temps aussi pour prier les uns pour les autres. Donc je vous invite, après l'introduction à ce temps, de prendre un temps de prière communautaire pour ce que nous avons entendu, ce qui nous touche, et peut-être se mettre, peut-être prier pour celui qui est à côté de vous, soit en silence, soit voilà, de pleine voix. Je vous invite en tout cas à faire ce geste et à incarner ce qui a été dit pendant le Slido. Je vais lire un passage de l'Épître aux Romains pour introduire ce temps de Sainte-Cène. Avec quelques mots comme ça que je vais mettre, un peu une paraphrase de quelques mots pendant la lecture. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand nous étions encore sans force, incapables de nous sauver nous-mêmes, le Christ est mort pour les impies. La cause de notre révolte, de la révolte contre l'autorité de Dieu, au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être eu le courage de mourir pour une personne de bien, mais Dieu a prouvé à quel point il nous aimait. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Tout en ayant bien visé le but de la justice de Dieu, nous l'avons manqué. Par le don de la vie de Jésus, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu à cause de l'hostilité qu'il y a entre nous et lui. Mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. Quelle description redoutable et accablante de l'homme dans le péché, incapable de nous sauver nous-mêmes. Christ est mort pour ceux qui le méritaient le moins. En fait, le point fort de ces versets, c'est que Jésus est mort pour de telles personnes, pour chacun d'entre nous. Si vous vous savez aimé de Dieu et que Jésus est mort pour vos péchés, approchez-vous de cette table qui a été préparée pour vous. Mais si ce repas n'a pas de valeur pour votre vie intérieure, vous avez le droit de vous en abstenir. Amen.
Nous nous souvenons que le Seigneur Jésus a partagé du pain avec ses disciples en les invitant à en manger, en se souvenant qu'il s'agit de son corps brisé. Il a pris une coupe en rappelant à ses disciples qu'il y avait là l'image de son sang versé. Et c'est ainsi que Dieu prouve son amour envers nous. Ce moment, il est fort, il est riche. Nous vous invitons à l'accompagner de vos prières pendant ce temps où nous passerons avec le pain.
Vous pouvez venir, ceux qui ont été désignés. Pour ceux qui le veulent, il y a aussi une coupe que Philippe tient, dont vous faites un signe et vous pouvez prendre la coupe.
Seigneur Jésus, à qui irions-nous, disaient les disciples, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, à qui iront-ils s'ils n'entendent pas ces paroles? Donne-nous l'audace et le courage et le temps de prier pour que ton règne s'agrandisse et qu'il vienne encore aujourd'hui.
Merci Seigneur de nous rappeler ce matin avec force l'encouragement à la vie. Merci de nous rappeler aussi que tu n'as pas changé, que tu es toujours le Dieu qui peut faire des miracles. Mais merci aussi de nous rappeler ta souveraineté. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier tout particulièrement pour notre frère Serge Carrel. Seigneur, qu'il puisse rester fidèle, peut-être sans comprendre, mais en continuant à te faire confiance et à vouloir rester fidèle à toi. Nous te l'apportons avec confiance et nous te prions pour lui au nom puissant de Jésus. Amen.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont chargés dans des soucis, qui sentent des nœuds à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ne se sentent pas la liberté d'être ce qu'ils sont. Seigneur, merci parce que tu te tiens à côté d'eux. Merci parce que tu les aimes. Et merci parce que tu répondras à leurs prières. Qu'ils sachent de parler, de parler de ce qui se passe et demander ton aide. Amen. Amen.
À toi Seigneur, merci aussi pour ce privilège de pouvoir venir te parler, tu nous demandes juste de nous approcher et de te remettre les choses Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où je me suis laissée envahir au lieu de juste prier et pour que tu puisses venir agir Seigneur. ton nom, Jésus. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, merci aussi, parce que c'est vrai qu'on... Cette prière, Seigneur, c'est aussi un dialogue que nous voulons avec toi. C'est vrai, Seigneur, que dans ce dialogue, il y a parfois des demandes, parfois des remerciements, et aussi des reconnaissances. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu sois proche de nous, et Seigneur, que nous puissions dialoguer, nous puissions avoir un moment d'échange, un moment convivial aussi, où tu dis... Là, tu seras avec nous, tu mangeras avec nous et nous avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre notre prière, que ce soit aussi une prière pour ta présence auprès de nous et nous auprès de toi, Seigneur, soit ces moments conviviaux et ces moments de partage que nous pouvons avoir avec toi.
Amen. Amen, Jésus, que les jours à venir soient merveilleux ou qu'ils soient horribles. Notre prière, c'est que nous puissions, Seigneur, avec ton troupeau, rester à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Alors oui, merci, parce que les jours à venir, selon ce qu'on entend ou ce qu'on voit, on ne sait pas, on parle de persécution, on parle de ci, de guerre, etc. Mais finalement, aide-nous à avoir la vision que tu veux qu'on ait des séjours qui viennent et vraiment à rester sous tes ailes avec le troupeau. Amen.
Amen.
Seigneur, tu es plus proche de nous que d'un ami. Je te prie que tu viennes dans ton amour t'approcher des uns et des autres, Seigneur. Et qu'ils puissent repartir, qu'ils puissent retourner à la maison libre de fardeau. Parce que tu as apporté les fardeaux les plus lourds à la croix. Et tu as accompli ce miracle de réconciliation avec notre Créateur, avec notre Dieu. Amen. Nous avons passé au temps d'offrande. Est toujours libre et qui est juste la générosité de votre part et ça permet de faire vivre cette église et vous pouvez aussi continuer ce moment dans une attitude de prière.
Merci pour votre générosité, votre libéralité. Elle permet à notre Église de tenir ses engagements et encore une fois, de nourrir des projets. Merci à celles et ceux qui ont travaillé pour préparer ce culte et l'assurer au niveau de la technique, avec les potes, à l'accueil, café croissant, etc. Merci. Votre engagement est précieux. Je vous invite à vous lever pour un mot de bénédiction. Que vos mains en ce jour apprennent la grâce de tenir. Que vos oreilles, en ce jour, reçoivent le courage d'écouter. Que vos yeux, en ce jour, s'éveillent à l'émerveillement. Que vos pieds, en ce jour, marchent sur la voie juste. Et que tout votre être, en ce jour, chaque souffle, chaque os, chaque imagination lumineuse, se souvienne de ce pourquoi vous avez été fait. Aimer et être aimé. Allez dans la grâce qui vous précède, marchez dans l'amour qui vous accompagne et reposez-vous dans la miséricorde qui sera toujours sur vous. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.